toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lilia Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Si vous découvrez Fleurs d'avocat aujourd'hui, le podcast Fleurs d'avocat, ce sont des interviews d'avocats, tout âge, spécialité ou lieu d'exercice confondus, qui ont pour point commun de s'épanouir dans la profession. Et tous les 5 épisodes, une interview d'avocat reconverti, car je pense qu'on est vraiment épanoui que lorsque l'on sait qu'on a le choix. Mais pour l'été, j'ai concocté une grille spéciale en partant à la rencontre d'avocats qui ont une double vie et j'échange avec eux moins sur la profession que sur cette deuxième vie justement. Aujourd'hui, je partage avec vous mon échange avec maître Alexandra Recchia qui intervient en droit du travail mais est surtout 5 fois championne du monde et double championne d'Europe de karaté. Elle se prépare aujourd'hui pour son dernier objectif comme karatéka professionnelle, en tout cas en compétition, à savoir les Jeux Olympiques de 2020. On a fait cette interview à un moment où j'étais particulièrement sur les rotules. Je venais juste de rendre mon mémoire de premier semestre de Sciences Po et j'enchaînais les interviews pour l'été et pour anticiper la rentrée de septembre. Et ça a été un peu l'enregistrement catastrophe. J'avais oublié de lancer l'enregistrement, donc on a enregistré une deuxième fois. Et pendant cette deuxième fois, mon enregistreur est tombé en rade de batterie et vous entendrez donc une pause, même si on a pu reprendre la conversation. Bref, je vous laisse imaginer ma gêne face à Alexandra qui est un monstre de rigueur et d'efficacité, mais aussi de gentillesse, puisqu'elle a eu la patience d'aller au bout de l'interview dans ces conditions. Merci aux plusieurs tweetos qui ont pensé à Alexandra pour la série d'été. Pour celles et ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez me retrouver sur Twitter @maréchaud, M-A-R-E-C-H-A-U-D-L, comme Lila. Toujours pour celles et ceux qui découvrent Fleurs d'avocat aujourd'hui, sachez que c'est également une formation à l'intention des avocats dans les premières années d'exercice qui s'appelle « Bien dans ma robe ». Cette formation est composée de 4 ateliers de 2h30 et nous étudions différents outils pour vous aider à bien vivre votre exercice professionnel, adopter une attitude proactive, analyser son environnement professionnel, gérer son stress et enfin communiquer et gérer les conflits qui sont des compétences clés pour s'épanouir dans le métier. La prochaine session aura lieu les mercredis 4, 11, 18 et 25 septembre dans les locaux du cabinet Bold, 19 rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement de Paris. Lors de votre inscription, pensez à utiliser le code promo podcast PODCAST pour bénéficier d'une petite réduction. Enfin, si vous aimez le podcast, pensez à prendre quelques minutes pour laisser un avis et une nuée d'étoiles sur iTunes ou votre application podcast préférée. C'est ce qui m'aide le plus pour que d'autres puissent le découvrir à leur tour. Il est temps de vous souhaiter une très bonne écoute. Bonjour Alexandra Recchia.
Bonjour Lila Louise.
Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'avocat.
Avec plaisir.
Alors toi Alexandra, ta caractéristique c'est que tu es une sportive de haut niveau, une karatéka.
Oui.
Je te propose de m'expliquer comment est-ce que tu en es venue au karaté. Et ensuite on va un peu parler de la karatéka dans ta vie avocate ou de l'avocate dans ta vie de karatéka plutôt. Donc raconte-moi comment tu en es venue au karaté.
Alors j'ai commencé à 5 ans et demi parce que j'étais une enfant qui détestait perdre, très compétitrice. Et en fait j'étais aussi la plus petite à l'école, je me faisais constamment embêter et jamais par les mêmes personnes parce que la première fois je disais stop et la deuxième fois je cognais. Donc je me suis rapidement créé une réputation et mes parents ils se sont dit au moment de choisir un sport que le karaté c'était idéal pour moi, j'allais pouvoir apprendre à canaliser mon énergie parce que c'est une discipline où voilà, on transmet également beaucoup de valeurs, donc de respect, de maîtrise de soi, etc. Et aussi que j'allais pouvoir me régaler sur les tatamis parce qu'il y a des compétitions et que voilà, c'était vraiment mon domaine.
Donc tu commences la compétition très tôt.
Ouais.
Et tu gagnes et tu gagnes et tu gagnes et tu gagnes. Ça ne s'arrête pas. Est-ce qu'à un moment, tu as fait le choix entre faire que ça, du karaté, et quand même poursuivre les études supérieures ?
Alors non, j'ai pas eu de choix à faire parce que pour mes parents, c'était inadmissible de faire un choix. Ils m'ont dit, quand ça a commencé à devenir sérieux, tant sur le plan sportif que sur le plan professionnel, que si au niveau de l'école, ça ne suivait pas, eh ben, on mettrait le karaté entre parenthèses. Donc le karaté étant ma passion, je me suis dit non, je peux pas arrêter le karaté, c'est pas possible. Donc j'ai toujours fait ce qu'il fallait au niveau scolaire, le minimum requis pour pouvoir continuer le karaté. Et puis tout s'est déroulé, voilà, j'avais pas forcément de projet et j'en suis arrivée là où j'en suis juste par challenge de mes parents et puis par détermination.
Et du coup, tu choisis de faire des études de droit.
Ouais.
Quel était le leitmotiv derrière ça?
Alors, initialement, j'ai choisi le droit pour entrer dans la police. Parce que défendre les gens et la bonne cause, c'est vraiment ce qui me parlait. Donc, première année, ça passe. Deuxième année, ça passe. Troisième année, ça passe. Donc, je chambre un petit peu mon papa parce que quand je lui avais annoncé que j'allais entrer en fac de droit, il m'a ri au nez. Ça m'a vexée. Donc, intérieurement, je me suis dit, je vais te montrer, je vais y arriver. Et quand il a vu la première année, la deuxième année, la troisième année, il était épaté parce qu'il pensait pas que j'allais pouvoir y arriver.
C'est dingue parce que quand même, t'étais déjà championne de karaté à ce moment-là, non ?
Oui, j'étais déjà championne, mais c'est vrai que mes plus gros titres sont arrivés dans les années les plus critiques et difficiles, un petit peu en termes, en tout cas sur le plan scolaire. Donc c'est vrai que j'ai fait double championne du monde l'année où j'ai obtenu mon Master 2. J'ai fait double championne du monde l'année où j'ai obtenu mon CAPA. Donc finalement, je m'aperçois aujourd'hui que plus le challenge est difficile et plus j'ai envie de prouver aux autres que c'est possible.
Et du coup, comme tu l'expliques, tes plus beaux titres, tu les as obtenus, tu étais étudiante.
Ouais.
Comment ça s'est articulé finalement avec l'école, les concours et même tes maîtres de stage ? Parce que je suppose que c'est quand même de lourds entraînements, tout ça. Donc faire les deux en parallèle, ça a dû demander un aménagement assez dingue.
Oui, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui ont été sensibles à mon projet, qui ont cru en moi. C'est vrai que quand j'ai postulé en Master 2, j'ai essuyé énormément de refus. Je pense que le double projet, je ne le cachais pas du tout, pouvait être effrayant pour certains. Et je suis tombée sur un directeur de master qui adorait les profils atypiques. Il m'a reçu en entretien, il m'a dit que le Master 2 était ultra exigeant, bon, comme tous les Master 2. Hein. Mais je lui ai prouvé ma motivation, ma rigueur et mon envie de réussir, il a été sensible à ça. Et il a décidé d'aménager le Master 2, je l'ai fait sur 2 ans au lieu de faire sur 1 an. Donc j'ai eu la chance de tomber sur cette personne-là qui m'a donné ma chance et qui était prêt à aménager le diplôme pour moi. Et je suis contente parce qu'à l'issue du diplôme, il m'a dit qu'il n'avait aucun regret et que si c'était à refaire, il le referait et qu'il n'hésiterait pas à prendre d'autres sportifs de haut niveau parce que je lui avais montré qu'on avait certes des inconvénients, mais beaucoup de qualité et beaucoup d'engagement et que vraiment il était ravi de cette expérience-là. Ensuite, c'est pareil sur mes premiers stages en cabinet d'avocat. J'ai trouvé les bonnes personnes sensibles à mon projet. Et dans un premier temps, ça a été assez difficile à mettre en place. Mais par la suite, on a trouvé des arrangements, on s'est adapté. Ils ont fait preuve d'une capacité d'adaptation qui était assez énorme pour un cabinet d'avocat. Parce que
consistait en quoi du coup ?
Et les 3 premiers mois, en fait, ont fonctionné sur j'arrive à 9h le matin, je repars à 17h. Ça n'a pas fonctionné cette façon-là parce que du coup, les avocats collaborateurs avaient peur de me donner du travail puisqu'ils savaient qu'à 17h, je partais et que j'étais plus disponible. Du coup, on a fait une réunion avec l'associé et qui m'a demandé si je pouvais être un peu plus malléable. Je lui ai dit, il n'y a aucun souci, je peux très bien m'entraîner tôt le matin et après être disponible sur toute la journée. Il y a des jours où je m'entraînais tôt le matin, des jours où je m'entraînais entre midi et 2 sur ma pause déj, et des jours où je m'entraînais en fin de journée. Et en fait, cette façon-là, ils m'ont repris en stage à 2 reprises. Donc en fait, j'ai quasiment bossé 12 mois dans ce cabinet-là, dans le 8e.
Donc en fait, en fonction des semaines et des jours, tu modulais ton entraînement.
Voilà, c'est ça. Alors ça a été une grosse partie d'organisation, puisque forcément, mes semaines, elles ne se ressemblaient pas. Mais le cabinet a été très content de cette expérience-là et ils m'ont dit, si tu veux revenir par la suite, n'hésite pas. Puis ça a créé vraiment un engouement dans l'équipe parce qu'ils venaient même me voir aux compétitions. Donc ça a renforcé l'équipe et l'avocate associée, elle était ravie.
Ouais, ça veut dire que c'est possible en fait de s'organiser.
Oui, il faut juste que les gens soient capables de s'adapter. C'est vrai qu'en cabinet d'avocat, on est assez psychorigide, faut être là sur des amplitudes horaires énormes, mais moi ma capacité c'est que sur l'amplitude horaire où j'étais là, j'étais efficace. Donc au final, ça suffisait amplement pour les avocats.
Et tu, donc ces années-là, meilleures années, et ensuite tu deviens avocate.
Oui.
Ça c'est aussi l'année où tu es à nouveau championne du monde.
Oui.
Tu as exercé comme collaboratrice ?
Oui, j'ai fait 3 mois en tant que juriste en attendant ma prestation de serment, ouais. Et 3 mois en tant que collaboratrice.
Ouais. Ouais, ouais.
Alors, c'était un peu pareil au niveau de l'entraînement, on s'adaptait. Soit je m'entraînais tôt le matin, soit sur mon créneau de déjeuner, soit le soir. Et j'avais dit à l'associé que si ça venait à le gêner, c'était pas une situation confortable pour lui, il n'y avait pas de souci, je démissionnerais. Donc, malheureusement, j'en suis arrivée à démissionner puisqu'il avait du mal à s'adapter à ce niveau-là. Et bon, c'est vrai que c'était un cabinet taille humaine, donc du coup il fallait qu'il ait ses collaborateurs sous la main à n'importe quel moment, et moi ça je pouvais pas lui offrir, donc du coup j'ai mis un terme à la collaboration et puis je me suis installée.
Et t'avais pas voulu rester chez Capstan?
En fait j'avais suivi un avocat collaborateur qui s'était associé dans un autre cabinet, qui avait été un petit peu mon mentor et avec qui j'aimais beaucoup travailler, et qui vraiment était top en termes de pédagogie. J'ai beaucoup appris de lui et j'espère par la suite pouvoir retravailler avec lui. Ouais, pourquoi pas.
Et tu t'installes donc à ton compte parce qu'au niveau de l'organisation, ça matche moins.
C'est ça.
Comment ça se passe à ton compte alors qu'en parallèle, tu continues la compétition? Enfin voilà, le développement. Et puis déjà, t'installer à ton compte, est-ce que ça t'a pas fait peur
J'ai eu quelques craintes, mais après j'avais pas le choix, il fallait que je saute le pas, donc je l'ai fait. Finalement, ce sont les clients qui sont venus à moi, j'ai pas eu besoin de démarcher avec mon réseau, c'était l'avantage. Et puis, je me suis découvert une vraie confiance en moi, une vraie sérénité. Mes copines étaient même admiratives, mes copines de l'école, parce qu'elles disaient je serais incapable, si je suis pas relue, je rends rien quoi. Et moi je me suis dit, j'ai travaillé dur, j'ai fait mes recherches consciencieusement, pourquoi pas. Ouais. Et puis au final, ça m'a permis vraiment de me libérer et d'arriver à... Puis je suis contente parce que tous mes clients étaient contents et voilà, j'ai remporté toutes mes affaires.
Donc tu gagnes toutes tes affaires comme tu gagnes tous tes combats.
Bon, en tout cas, tant que mes clients sont contents, c'est le principal.
Et d'ailleurs, puisque tu continues la compétition, comment ça se passe comment ça s'organise ta vie quoi, de sportive, d'avocate? Comment t'organises les deux?
Alors là, actuellement, c'est un peu particulier parce que j'ai une activité qui est largement réduite depuis quelques mois. Quand j'étais encore en activité normale, c'était simple. Hein, c'était entraînement-travail, de jour, de nuit. Et puis j'essayais d'optimiser la récupération avec des siestes courtes. Mais j'avais pas le choix. Quand les dossiers le nécessitaient, c'était plusieurs heures de travail entre deux entraînements ou après l'entraînement du soir. Et là, actuellement, vu que je prépare les Jeux Olympiques, il faut que je décroche ma qualification, que c'est un travail de très longue haleine, j'ai mis clairement mon activité entre parenthèses. J'ai travaillé un petit peu hier sur une mise en demeure, mais je prends que des dossiers très simples qui sont pas chronophages, qui prennent pas de temps. Et ça va durer seulement quelques mois jusqu'au jeu. Et puis après les jeux, j'essaierai de chercher une collaboration.
Ouais, parce que du coup, tu as envie de... Enfin, une fois que tu fermes un peu la parenthèse... Après, tu arrêtes la compétition?
Oui, après j'arrête la compétition.
T'arrêtes vraiment?
Oui, oui.
Ça te fait quoi de dire ça?
Rien, parce que c'est vrai que là, je suis vraiment sur ma fin de carrière. Je suis entrée en équipe de France à 14 ans. Là, j'en ai 30. Ça fait une très longue carrière, hein, je vous cache pas. Il y a très peu de membres en équipe de France qui ont une carrière aussi longue. Donc là, si je continue, c'est uniquement pour les Jeux, parce qu'on entre aux Jeux en 2020. Le karaté entre aux Jeux en 2020 et ne sera certainement pas aux Jeux de 2024. Donc c'est mon unique chance de faire les Jeux Olympiques et de remporter une médaille olympique. Donc en fait, je me suis dit, le droit, le métier d'avocat, je vais y consacrer tout le reste de ma vie. Donc c'est pas grave si je mets entre parenthèses pendant un an.
Ouais, mais le fait de dire que potentiellement la compétition va s'arrêter, ça te...
Non, parce qu'en fait, je retrouve un petit peu dans le métier d'avocat cet esprit de compétition. La préparation aussi, il faut préparer le dossier, faut préparer sa plaidoirie. Après, la plaidoirie, pour moi, c'est un combat, hein. Il faut convaincre, il faut gagner. Donc, je sais que cet esprit de compétition, je le retrouverai dans mon métier, donc je crains pas ça.
Ouais.
Non, pas du tout.
Et donc aujourd'hui, tu es presque exclusivement concentrée au sport, ça ressemble à quoi tes journées?
Du coup, je m'entraîne deux fois par jour, je me lève entre 8h et 8h30, je prends un bon petit déjeuner, après je vais à l'entraînement, je rentre, c'est l'heure de déjeuner. Ensuite, je fais une petite sieste, je me repose, je me détends jusqu'à l'entraînement de l'après-midi. Et le soir, c'est 1 heure d'étirement, je dîne et puis au dodo.
Ouais.
Ouais. Et quand on peut, on essaye de caler un dîner entre amis, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça se fait assez rare parce que je suis tellement fatiguée que les moments de repos, j'essaye de les optimiser un maximum.
Donc ça fait combien d'heures d'activité physique ?
C'est à peu près 15 heures par semaine. Oui, ouais, 15 heures par semaine.
Ouais, c'est énorme.
Juste le temps d'entraînement, sans compter les temps de déplacement, les temps de, ouais, les temps de douche, les temps de repas, etc.
Mmh. Ouais. Et tu disais donc que tu aimerais retrouver une collaboration après, quand tu auras clôturé ta phase de compétition.
Oui.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je juge que je suis encore une avocate junior et que j'ai encore besoin de me former, notamment sur le plan de la procédure. Donc, faire un an et demi de collaboration sur Paris, dans un cabinet de taille moyenne ou de petite taille, je sais que ça sera très très formateur et qu'après je pourrai m'installer.
Ouais, donc objectif, ça te fait pas peur de retourner dans une structure en exercice à plusieurs et tout ?
Non, pas du tout, parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et que j'en ai besoin en fait. Ouais. Donc j'ai pas la prétention de pouvoir m'installer définitivement toute seule dès la fin des JO. Je sais que j'ai encore besoin d'apprendre et de me former, donc voilà, j'en ai pas honte. Je vais le faire.
Et alors, je te disais tout à l'heure que j'ai regardé, avant de venir, j'ai regardé ton match de 2012 parce que j'ai vu sur ton site que c'était un de ceux qui t'a le plus plu.
Oui, c'est mon premier titre en individuel.
Ouais. Alors moi, j'y connais rien au karaté, mais qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là ?
Alors, beaucoup de joie parce que c'est vrai que j'ai gagné des compétitions très vite, mais championne du monde individuelle en senior, donc en fait c'était le titre suprême à l'époque en karaté. Il a fallu que j'attende un petit peu avant de l'obtenir et il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup de périodes de moins bien, il y a eu des échecs.
Donc moi, quand j'ai regardé cette vidéo de ton match, alors au-delà du fait que moi j'ai l'impression que tu perds quand tu gagnes, donc j'ai un peu du mal à comprendre le système de ce combat. Mais voilà, c'est vrai que c'était émouvant parce que j'avais lu avant sur ton site que c'était ton match un peu préféré, comme tu l'expliques, parce que du coup c'était ton premier titre en individuel, etc. Et en plus sur la catégorie la plus haute, et on voit tout de suite sur ton visage que tu passes de, tu vois, les sourcils un peu froncés, je vais me la faire celle-là, à hop, tu t'effondres sur le tatami et tout, et c'est assez émouvant. Qu'est-ce que t'as ressenti du coup toi à ce moment-là?
Énormément de bonheur, un soulagement en fait, parce que je me dis ça y est, je suis enfin championne du monde. Et en fait, ton impression je perdais, c'est juste que je voulais l'atomiser la nana en face. Et en fait, je gagne par 8 à 1. Donc en fait, je me suis pas contentée de gagner de 2-1 ou de 3-1. C'est qu'à chaque fois, dès que je voyais une opportunité, j'y allais et je marquais un point de plus, un point de plus, un point de plus. Et il faut savoir qu'au karaté, s'il y a 8 points d'écart, le match s'arrête avant le temps réglementaire. Donc j'ai voilà, à un point près, vraiment, je gagnais avec le panache. Et bon, c'était quand même le panache parce que 8 à 1, c'est quand même une fessée en finale d'un championnat du monde. Et du coup, bah, énormément de bonheur, de soulagement. Et tout de suite, j'ai eu une pensée pour mon papy qui me regardait de là-haut. Et je sais qu'il aurait été extrêmement fier. Pour un autre ami aussi qui devait être présent, qui avait ses places et qui malheureusement est décédé l'été d'avant. Donc, beaucoup de bonheur. Il y avait mes parents dans le public. J'ai pu leur sauter dans les bras. Il y avait 15 000 Français qui étaient venus nous voir à Bercy. Donc, c'était vraiment très, très fort en émotion. Et si ce n'est au jeu, je pense que je pourrais jamais revivre ça. Vraiment. Cette intensité-là.
Ouais. Et tu dis que ça t'a coûté de l'obtenir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu l'as tenté plusieurs fois et c'est jamais arrivé ?
Alors non, c'était mes deuxièmes championnats du monde en individuel. Mais j'ai perdu ma place en individuel pendant 2 ans. Et il a fallu vraiment que j'aille la reconquérir pour pouvoir participer à ces championnats du monde parce que la fille qui était numéro 1 devant moi, elle était bien classée sur les compétitions. Et quand on se rencontrait, c'était une fois moi qui gagnais, une fois elle qui gagnait. Donc déjà, pour aller décrocher ma sélection en elle-même, ça a été vraiment un parcours du combattant. Et puis un mois avant les championnats du monde, j'étais au bout du rouleau, très très fatiguée. J'avais pris une petite claque sur une compétition, j'avais perdu contre ma plus grande rivale et elle m'avait mis un score très large. Donc j'abordais pas cette compétition de la meilleure des manières. Mais seulement 5 jours avant, j'ai eu un déclic à l'entraînement. Je me suis sentie mais tellement bien, comme si j'étais en dehors de mon corps et que je voyais tout ce qui se passait en face. Et là je me suis dit c'est bon, t'es prête. Et donc sur ces championnats du monde, j'ai été un robot. Il n'y a rien qui m'a perturbée. Pourtant, je me suis cassé le poignet au premier combat. J'ai fait toute la compétition avec le poignet cassé.
Quoi ?
Mmh. Ah ouais. Sur une chute, je me suis cassé le poignet. Je l'ai senti parce que j'ai eu une douleur insoutenable dès la chute. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, t'es prête, donc c'est pas ça qui va t'arrêter. Et voilà, le fait qu'il y ait 15 000 spectateurs, on n'est pas habitués, nous, les karatékas, donc ça aurait pu me perturber, pas du tout. Donc vraiment, cette compétition, c'est une compétition de référence sur tous les plans pour moi. Vraiment, j'étais intouchable. C'était moi et personne d'autre.
Revenons-en à cette histoire de poignet cassé. Donc, tu donnes des coups avec ton poignet cassé.
Oui. Bah après, je pense qu'on est tellement dans l'effort, dans la concentration et dans l'euphorie qu'on ne sent pas la douleur. Moi, je l'ai senti après le soir, mais sur le moment, on serre les dents, on s'accroche et on est concentré que sur une chose, c'est sur l'adversaire en face.
Et aujourd'hui, parce que je me rends compte qu'on n'a même pas parlé de ton palmarès, moi j'ai vu beaucoup de coupes, beaucoup de coupes, mais si toi tu devais globalement synthétiser, faire ta carte de visite de sportif, ce serait quoi ?
Je dirais 5 fois championne du monde et double championne d'Europe.
Pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
Et on espère
championne olympique.
Ah
ouais, ça serait vraiment finir en beauté la carrière, ouais.
Ouais. Pour finir cet entretien, j'ai 3 petites questions.
Ouais.
La première, c'est quelle est ta source d'inspiration actuelle ? Ça peut être n'importe quoi ou n'importe qui.
Ouais. Alors quand j'étais plus jeune, c'était Bruce Lee, parce que j'aimais son efficacité et puis son état d'esprit. Et aujourd'hui, j'ai découvert un sportif en crossfit qui m'a clairement vraiment épatée. Et il n'y a pas beaucoup de sportifs qui m'ont épatée, mais alors lui, vraiment, je suis devenue fan. C'est Rich Froning, c'est un athlète en fait qui s'est préparé tout seul, qui a préparé lui-même sa programmation d'entraînement, qui s'est entraîné tout seul, qui s'est aménagé son garage. Et il a gagné la plus grosse compétition de crossfit qui existe au monde, c'est les Games, les CrossFit Games. J'ai adoré sa personnalité, sa simplicité, et puis son état d'esprit, sa rigueur, etc. Je me suis un peu retrouvée en lui, voilà, je m'inspire de ces deux personnes-là, et je me dis que quand on veut quelque chose, bah, suffit juste de se donner les moyens pour y arriver, de se fixer des objectifs et croire que de toute façon on peut tout accomplir à partir du moment où on y croit.
Quelle est ta dernière joie ?
Ma dernière joie, c'est mon compagnon qui m'a demandé en mariage, donc on s'est fiancés il y a 8 jours.
Félicitations.
Merci.
Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe ?
Une tenue assez élégante avec un pantalon de tailleur, un chemisier, des escarpins. Parce que je reste une femme avant tout.
Ouais. Et c'est drôle parce que je crois qu'on fait la même taille.
Ah, c'est possible. 1m54.
Ouais, 1m55.
Voilà.
Et quand... parce que moi aussi, j'ai fait 3 mois comme juriste dans un cabinet d'avocat avant. Donc, j'ai eu une visite du médecin du travail. Et elle a voulu mettre un 1,54 et j'ai négocié 1,55. Je lui ai dit non, c'est une question d'honneur, vous pouvez pas me baisser à 1,55.
Enfin, moi j'ai jamais dépassé l'1,54 donc ça me traumatise pas.
Voilà. Bref, merci beaucoup Alexandra.
Merci Lila Louise.